Bouquet de fleurs des champs. Il y a bien longtemps, la femme d'un gentil fermier mourut après avoir donné naissance à leur second enfant. Le fermier éleva seul ses enfants jusqu'au jour où il tomba malade lui aussi et mourut. Son fils avait alors 16 ans et sa fille 11. Conformément à ses dernières volontés, ses enfants l'enterrèrent dans l'une de leurs rizières bordée de saponnières. Les enfants savaient que 6 générations plus tôt, l'un de leurs ancêtres, un érudit voulant fuir une carrière difficile, avait quitté le centre du Vietnam pour s'établir dans le sud. Il avait défriché une forêt et planté 4 rizières qui étaient toutes très fertiles. Pendant 6 générations, ses enfants et leurs enfants travaillèrent dur et devinrent de vrais fermiers. Avant de mourir, le fermier fit venir ses 2 enfants sur son lit de mort pour exprimer un dernier souhait. « Quand je serai mort, ne vendez pas nos rizières. Prenez-en soin et continuez de planter et de récolter. Vous savez que pendant 5 générations, nos ancêtres ont cru que le fondateur de ces terres avait caché un trésor quelque part dans nos rizières, certainement de l'or et des joyaux. À ce jour, personne ne l'a encore trouvé. Nos ancêtres ont laissé un poème pour nous aider à le découvrir. Pendant des générations, personne n'en a compris le sens. Votre grand-père m'a dit que pour y arriver, il fallait méditer longtemps. Quand votre grand-père était encore en vie, notre pays a connu bien des adversités. Il a souvent dû partir se réfugier ailleurs, mais il est toujours revenu sur ses terres. D'autres maisons sont tombées en ruine, mais votre grand-père a travaillé dur pour reconstruire et entretenir la ferme. Il n'a jamais eu le temps de méditer le poème et m'avait demandé de trouver le temps de le faire. Mais comme lui, j'ai passé toute ma vie à travailler dans les champs. C'est pourquoi je vous transmets le trésor et ses instructions. Ne soyez pas aussi occupé que je l'ai été. Travaillez suffisamment pour vivre, mais prenez le temps de découvrir le sens profond du poème et le trésor qu'il renferme. C'est la meilleure façon d'exprimer votre gratitude envers nos ancêtres. Le poème est à la page 44 du registre de famille, dans le coffre en bois qui se trouve sur l'autel des ancêtres. Le lendemain des funérailles de leur père, le frère et la sœur se prosternèrent devant l'autel et prirent le registre de famille. Avec solennité et le plus grand respect, ils l'ouvrirent à la page 44 et lurent le poème. Ni toit de tuiles au-dessus, ni terre à cultiver au-dessous. Revêt un nouvel habit et pars devant avec ton bâton. Un seul pas suffira et le monde tremblera, tel un dragon bondissant sur sa proie. Le frère et la sœur restèrent silencieux un long moment. Le bâton d'encens qu'ils avaient allumé avait presque fini de se consumer, quand la voix de la jeune fille vint rompre le silence. « Frère, as-tu compris quelque chose ? Le poème est très beau, mais je n'en saisis pas un mot. » Le frère ne répondit pas. Il referma le registre de famille, qu'il replaça respectueusement dans le coffre en bois sur l'autel. Tous deux se prosternèrent à nouveau devant leurs ancêtres. Au bout de quelques minutes, le frère dit « Grand-père avait raison, il faut beaucoup de temps pour comprendre ce poème. Faisons comme il nous a été dit. Quand nous serons habitués à notre nouvelle vie, trouvons le temps de le méditer. » Le temps passa très vite. 6 ans durant, le frère et la sœur firent d'excellentes récoltes. et ils purent reconstruire la maison de leurs ancêtres. Le toit de tuiles rouges scintillait. Dans la cour, les jacquiers étaient verts et denses, chargés de fruits. Le grenier à riz était toujours rempli. De beaux buffles labouraient le sol ébène des rizières afin d'aider les jeunes pousses de riz à croître. Le frère et la sœur étaient avenants et généreux, aimés et respectés des villageois. Les gens qui travaillaient pour eux étaient tous honnêtes. Ils traitaient la propriété de leur maître comme s'ils avaient été la leur. Toutes les jeunes filles du village étaient éprises du jeune homme. Mais jamais ils n'avaient pensé à se marier. En vérité, ils ne voulaient pas se marier pour avoir le temps de se consacrer pleinement à l'étude du poème. Quand sa sœur fut en âge de se marier, tous les jeunes hommes du village la courtisèrent. Elle était belle et pleine de compassion. Ils furent nombreux à venir demander sa main. Mais elle refusa leur proposition, car elle voulait aussi avoir le temps de percer le mystère du poème. Or, ils étaient trop pris par leurs tâches de tous les jours pour avoir le temps de méditer quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'ils aient eu des dettes, de grosses réparations ou des problèmes particuliers à la ferme. Ils avaient de surcroît des gens pour les aider à la maison et dans les plantations et faisaient de très belles récoltes. C'était tout simplement le temps qui passait trop vite. Alors le frère commença à ne plus fermer l'œil de la nuit tant il était soucieux. Il avait beau s'occuper de son mieux des rizières et de la ferme héritée de ses ancêtres, il ne se sentait pas heureux. Il ne serait pas en paix tant qu'il n'aurait pas découvert le sens profond du poème. Pourquoi ? Avait-il vraiment besoin du trésor de ses ancêtres ? Il avait déjà connu le succès et la richesse, mais ce qui était à l'origine de ce succès, la maison, le jardin, les plantations, étaient des obstacles à sa quête. Il n'y avait que 24 heures dans une journée et chaque heure était pleinement remplie. À l'aube, il prenait son petit déjeuner et partait travailler dans les rizières. À midi, il faisait un repas léger et une sieste. L'après-midi, il retournait dans les plantations avec les buffles. Et le soir, il avait tout juste le temps de se laver, de manger et de dormir. Quand aurait-il eu le temps de méditer ? S'il n'avait plus sa maison et ses rizières, il serait un vagabond et pourrait se consacrer au poème. Mais là, il n'avait plus le temps de rien. Toute la nuit, il se tourna et se retourna sur sa couche, pensant aux vieux ermites qui ont tout quitté pour se retirer dans la jungle et chercher la voie. « Si je veux avoir le temps, se dit-il, peut-être dois-je tout laisser derrière moi. Mais je ne peux pas renoncer à la fortune héritée de nos ancêtres. Le trésor est dans les rizières. Si je les abandonne, j'aurai tout perdu. » Le temps passa. Quand le frère eut 30 ans, sa volonté de comprendre le poème n'avait fait que grandir. Les rizières regorgeaient de riz doré et les moissonneurs bavardaient, riaient et chantaient joyeusement en travaillant. Les soirs de clair de lune, pendant le battage, les jeunes hommes et les jeunes femmes se rassemblaient pour chanter. Mais rien de tout cela ne le rendait heureux. Sa sœur, qui s'en était rendue compte, lui proposa de s'occuper de la maison et des plantations afin qu'il puisse se vouer pleinement à l'étude du poème. C'était une bonne idée, mais difficile à mettre en pratique. Sa sœur commença à tout prendre en charge à la maison et dans les rizières. Mais il ne pouvait pas rester désœuvré, il était trop habitué à travailler et se sentait malheureux quand ses mains n'étaient pas occupées. Alors il se dit que s'il voulait vraiment étudier le poème, il lui faudrait partir, se retirer dans un temple. C'est ce qu'il fit. Il partit vivre dans un temple au centre du Vietnam, où il avait été accepté. Tout le temps que dura sa retraite, sa sœur envoya tous les mois au temple 500 livres de riz à titre de donation. N'ayant plus aucune corvée à accomplir, son frère était enfin libre de méditer le poème. 3 années passèrent. De retour à la ferme, le jeune homme marchait lentement sur la route déserte et ensoleillée du village. Jusque-là, il n'avait vu personne. Quand il arriva au carrefour, il posa son sac et s'assit à l'ombre d'un vieux banyan. Tout était parfaitement calme. Pendant 3 ans, il avait travaillé dans la communauté monastique, à planter des pommes de terre, nettoyer des légumes, couper du bois et porter de l'eau. Au temple, le travail faisait partie intégrante de la pratique. En fin de compte, il était encore plus occupé que chez lui. Mais il avait trouvé, on ne sait trop comment, le temps de mémoriser chaque vers du poème. Il l'avait récité en silence un nombre incalculable de fois, pendant la méditation assise, la méditation au marché et en travaillant. Mais au bout de ces 3 années, rien de nouveau ne lui avait été révélé. Les 2 premiers vers étaient les plus mystérieux. Ni toit de tuiles au-dessus, ni terre à cultiver au-dessous. Où était cet endroit ? S'agissait-il d'un étang ? Non. Un étang avait toujours de la terre au-dessous. Et comment aurait-il pu y avoir un étang dans les rizières ? Il y avait bien la mare aux canards dans la cour, mais un trésor ne pouvait être caché dans une mare. Le trésor était peut-être sous un gros rocher. Mais il n'y avait pas de gros rochers non plus dans les rizières. Un endroit où il n'y a pas de toit de tuiles doit être à l'air libre, se dit-il. Il avait le sentiment d'avoir enfin compris le premier vers. Mais il n'était pas du tout sûr du deuxième et encore moins des 2 suivants. Revêt un nouvel habit et pars devant avec ton bâton. Cela doit être lié à l'endroit où sont enterrés mes ancêtres, se dit-il. Ces vers suggéraient des funérailles, des gens portant des habits de deuil et un moine avec un bâton. Mais les tombes de ses ancêtres étaient dans le cimetière du village et non dans les rizières. Dans les champs bordés de saponaires, il n'y avait que la tombe de ses parents. Les 2 derniers vers lui paraissaient encore plus troublants. Un seul pas suffira et le monde tremblera, tel un dragon bondissant sur sa proie. Il pensa à la géomancie. Un bon géomancien devrait pouvoir lui dire où se trouve la bouche du dragon dans les 4 rizières. Mais comment pouvait-il y avoir un dragon bleu ou un tigre blanc dans un tel endroit si vaste et si plat? Durant sa retraite, il avait demandé un jour à un vénérable moine de lui expliquer le poème, mais le vieux moine ne lui avait été d'aucune aide. Au bout de 3 années passées dans le temple, le jeune homme s'était dit que sa compréhension du poème n'était pas meilleure qu'à son arrivée. Mais son esprit avait changé. Il regardait les choses plus attentivement et commençait d'une certaine façon à sentir un lien entre sa vie quotidienne, manger, dormir et travailler, et le poème de ses ancêtres, comme si sa vie et le poème étaient aussi proches que le sang circulant dans son corps. Les rayons du soleil s'allongèrent et l'air de l'après-midi se rafraîchit. Le jeune homme se leva et se remit en marche, son sac à l'épaule. Partout alentour, l'épouse de riz était tendre et verte. Elle lui faisait signe dans la brise de l'après-midi. Un bonheur léger pénétra tout son corps. Soudain attiré par un chant au loin, il s'arrêta pour écouter et entendit une voix aussi joyeuse que les jeunes pousses de riz ondulant dans la brise. La voix se fit de plus en plus claire. C'était sa sœur. Aussi excité qu'un jour de nouvel an, il se mit à courir à sa rencontre. C'est alors qu'il la vit remonter le champ de mûres. Elle chantait pour les buffles, un bouquet de fleurs des champs à la main. Quand elle aperçut son frère, elle courut vers lui et lui offrit spontanément les fleurs qu'elle venait de cueillir. Arborant un large sourire, elle le dévisagea de la tête aux pieds, avec ses habits marrons et son sac gris à l'épaule. Puis elle le fixa droit dans les yeux. Son regard aussi clair que l'eau fraîche lui apporta une sensation de bien-être et de paix dans tout le corps et l'esprit. Sa tristesse disparut aussitôt. Il se sentait aussi léger qu'un nuage flottant dans le ciel. Elle était sa sœur, mais son regard était aussi généreux et protecteur que celui d'une mère. Après avoir ramené les buffles dans le pré, le frère et la sœur s'assirent sur un monticule de terre à l'ombre d'un arbre. Il lui raconta sa vie au temple durant ces 3 années et lui fit part de ses réflexions au sujet du poème. Elle l'écouta attentivement, sans jamais l'interrompre, ne manquant aucun détail. Quand il eut terminé, il regarda profondément sa sœur. Elle avait le visage hâlé, un corps en bonne santé, des yeux brillants et un sourire plein de fraîcheur et de compassion. De nature plutôt calme, elle était à ce moment complètement silencieuse. En voyant son attitude et son regard, il sut qu'elle avait trouvé la paix, la joie et le bonheur. Elle lut dans ses pensées et dit « Quand tu es parti, j'ai pris soin de la maison et des plantations toute seule. Mais je ne l'ai jamais ressenti comme une charge. Je dirais même que cela m'a été facile. J'accomplissais toutes les corvées sans me presser, avec le plus grand plaisir. Il ne te fallait jamais plus de 7 jours pour labourer la terre, moi il m'en fallait 12. En fait, je me suis rendu compte qu'en allant vite ou lentement, cela revient finalement au même. Tandis que les buffles tiraient la charrue, je me disais en moi-même, c'est peut-être là que le trésor est caché. Quand j'ai réalisé que n'importe quelle parcelle de nos rizières pouvait être l'endroit où le trésor était caché, j'ai labouré encore plus lentement, apportant toute mon attention à chaque centimètre de terre. L'après-midi du 8e jour, en labourant le dernier sillon près de la pagode, j'ai compris que chacune des parcelles de nos 4 rizières était un trésor. Le trésor n'était pas enterré, il était dans chaque centimètre carré de nos plantations. J'ai compris que la terre est précieuse non seulement parce qu'elle produit du riz, mais parce qu'elle est la terre. J'ai regardé la charrue, le buffle, les nuages blancs, le ciel et les frangipaniers derrière la pagode, et j'ai compris que la charrue est précieuse parce qu'elle est une charrue, que le buffle est précieux parce qu'il est un buffle, que les nuages sont précieux parce qu'ils sont des nuages, que les frangipaniers sont précieux parce qu'ils sont des frangipaniers. J'ai compris que ce que nous cherchions, ce n'était pas un trésor particulier, mais la présence unique de tous les êtres dans l'univers, la nôtre également. J'étais plus heureuse que si j'avais découvert un coffre au trésor. Quand je suis rentrée à la maison après ma journée de travail, je débordais d'un immense amour pour toute la vie et tous les êtres. Le lendemain et les 3 jours suivants, j'avais l'esprit très clair en labourant. Dans chaque goutte de ma sueur, je voyais toute mon âme arrosant le sol. J'ai réalisé que je n'étais pas plus importante que le buffle ou toute autre chose. Si j'avais su écrire, je t'aurais écrit pour te dire que, quoi qu'il arrive, que tu comprennes ou non le sens du poème, ou que tu découvres ou non le trésor, nos vies seraient emplies de bonheur. J'ai continué d'envoyer du riz chaque mois à ton temple, espérant que tu serais inspiré et découvrirai le sens du poème, pour lui-même, et pas seulement pour trouver le trésor de nos ancêtres. De toute façon, qu'aurions-nous fait de ce trésor si nous l'avions trouvé? Acheter de nouvelles terres? Construire de nouvelles maisons? N'avons-nous pas assez de nos 4 rizières à labourer? Et qui s'occuperait des maisons? Une maison et 4 rizières ont déjà suffi à te faire prendre refuge dans un temple. Je n'ai pas de souhait pour les trésors. Mais je sais que le poème de nos ancêtres est profondément lié à nos vies. Quand tu me l'as lu la première fois, je me le suis souvent répété sans vraiment le comprendre. Depuis, mon cœur bat chaque fois que je le lis, comme lorsque j'entends le murmure du vent dans les feuilles de l'arbre Sodua. Je ne sais pas ce que le vent essaye de dire, mais je sais que j'aime à l'entendre et que je me sens très proche de lui et des arbres. Grâce à ces 8 jours passés à labourer le trésor lui-même, je me suis découverte moi-même. J'ai aussi découvert la charrue, le buffle, les nuages blancs et les frangipaniers derrière la pagode. Une nuit, j'ai rêvé que je voyais papa me sourire, le visage radieux. Je lui disais « Ce n'est pas moi, mais mon frère qui a découvert le trésor. » Depuis ce jour, je me sens libre. Je chante pour les buffles, les vaches, les champs et les pousses de riz en attendant ton retour. Maintenant, tu es là. Et je suis très heureuse.
Oui, une belle rendez-vous. Ma tante, c'est le filou. Vous tout quand parlez à vous. Au père, vous soyez le temps.